Vous écoutez RTL.
Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour Jean-Michel Apathy.
Avant de parler des rythmes scolaires, nous diffusons ce matin un témoignage sur RTL qui fait beaucoup réagir les auditeurs et qui les bouleverse. Une jeune femme de 29 ans a été agressée mardi soir dans le métro de Lille. Il y avait plusieurs adultes, plusieurs personnes dans la rame de métro et personne n'est venu à son secours. Elle raconte avec des sanglots dans la voix l'agression sexuelle dont elle a été l'objet. Vous avez une réaction face à ce sujet qui dit quelque chose de notre société ?
Bon, c'est difficile déjà de juger toutes ces personnes dès lors que, confronté à cette situation, on ne sait pas ce que soi-même on aurait fait face à la violence d'un homme, mais ça dit beaucoup de l'indifférence qui est celle qui frappe cette société, où finalement on préfère mettre de côté la violence qui existe, l'exclusion que l'on croise tous les jours, chacun dans son couloir de nage et regardant devant soi. Et ça dit voilà que le lien social, les solidarités sont aujourd'hui ébranlées, touchées par à la fois la crise et puis aussi par une forme de délitement moral de la société, éthique. Et c'est ce qui, comme ministre de l'Éducation nationale, là pour le coup, m'interroge, dès lors que nous avons en charge la formation des enfants, l'apprentissage de valeurs comme le respect. Tout ça, évidemment, c'est une leçon qui est une leçon dont nous devons tous apprendre. Et puis en même temps, j'ai une pensée pour cette jeune femme qui a vécu là une expérience qui est forcément une expérience extrêmement douloureuse pour elle.
Voilà, on l'a entendu ce matin sur l'antenne d'RTL, elle est effectivement très émouvante et ce qui lui est arrivé était évidemment très violent. Voilà ce à quoi je voulais vous faire réagir. Vous avez promis, Benoît Hamon, je vous cite, un assouplissement significatif de la réforme des rythmes scolaires engagée par votre prédécesseur Vincent Peillon. Quel est concrètement l'assouplissement que vous avez décidé dans cette réforme des rythmes scolaires ?
Bon, je veux recommencer par le départ. Qu'attend-on de l'école et notamment de l'école primaire ? Qu'à la fin du CM2, quand les enfants entrent en sixième, ils sachent écrire, compter, lire, parler correctement le français. Or aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants en situation d'échec sur ces apprentissages fondamentaux au moment où ils entrent au collège. Et cet échec ne va que croissant, il y a une vraie dégringolade aujourd'hui de l'école française dans tous les classements internationaux.
Et donc réformer le temps scolaire, c'est réformer le temps faciliter scolaire, l'apprentissage de ces...
Leur permettre, en tout cas, de concentrer ces apprentissages fondamentaux au moment où les enfants sont les plus attentifs, les plus concentrés, là où on a ce qu'on appelle un pic de vigilance, ce qui n'est contesté par aucun expert.
Donc le matin.
D'où la réforme des rythmes scolaires qui maintiendra les 5 matinées qui avaient été pensées, imaginées par Vincent Peillon, mon prédécesseur. Donc nous conserverons ce socle.
Pas de retour aux 4 jours.
Pas de retour aux 4 jours. Quels sont les deux assouplissements que nous allons mettre en œuvre ? D'abord la possibilité pour les maires de concentrer les activités périscolaires, non pas sur toutes les journées, mais sur une seule demi-journée. De façon à faciliter, par exemple en milieu rural, une organisation du temps scolaire qui permet de passer des partenariats avec des associations, avec un conservatoire, avec d'autres communes et d'organiser plus simplement ce temps périscolaire. D'autre part... Sur une seule demi-journée.
Dans la semaine. C'est-à-dire qu'il y aura école tous les matins de la semaine.
Et il y aura école trois après-midi, en tout cas sur le temps scolaire, et il y aura une après-midi consacrée au temps périscolaire. On peut imaginer qu'une commune X le fasse le lundi, une commune Y sur la même intercommunalité le mardi, que des intervenants interviennent sur les activités périscolaires dans toutes ces écoles, ce qui permet de surcroît pour les élus de faire des économies d'échelle. Le deuxième assouplissement que nous allons mettre en œuvre, c'est la possibilité d'alléger encore la semaine, de faire par exemple une semaine à 23 heures, mais de rattraper les 36 heures qui sont dégagées, puisque ce serait une heure de moins par semaine, sur 36 semaines travaillées, sous la forme d'un allongement du temps de travail au détriment des vacances scolaires, mais tout ceci sous réserve d'un accord entre la commune, la communauté enseignante, évidemment le rectorat, et que l'objectif de cette nouvelle organisation du temps scolaire soit toujours la réussite de l'élève. On a beaucoup parlé, et c'est assez légitime, parce que les maires nous ont posé la question du financement des activités périscolaires, parce que ces changements ont pu embarrasser des professeurs ou des parents d'élèves. On a beaucoup parlé du périscolaire. On a moins parlé, dans ces derniers mois, de ce qu'est l'immense bénéfice d'une telle mesure et d'une telle organisation du temps scolaire. Nous allons permettre enfin aux enfants de pouvoir bénéficier des apprentissages fondamentaux, savoir parler correctement, savoir compter correctement, savoir écrire au moment où ils sont les plus attentifs. Moi, il me revient de dire que je ne peux pas rester regarder la dégringolade de l'école française dans les classements internationaux alors que je sais, comme nous savons tous, que l'organisation du temps scolaire en France est une des plus mauvaises au sein de l'OCDE, au sein de l'Union européenne, pour permettre à nos enfants d'apprendre.
Chaque commune fera ce qu'elle voudra ?
Chaque commune a d'ores et déjà, pour une immense majorité d'entre elles, validé une organisation du temps scolaire. Ces assouplissements que nous introduisons permettront à certaines d'entre elles, sans doute, de revoir encore et d'affiner l'organisation qui est la leur. Ce que je veux simplement dire, c'est que jusqu'ici, on demandait aux expérimentations, aux projets locaux, de s'adapter strictement au cadre réglementaire. Là, à partir de la première année d'expérience, à partir des contacts, j'ai appelé sur grand-mère de droite comme de gauche et rencontré les organisations évidemment syndicales d'enseignants, les parents d'élèves. Nous avons voulu que le cadre réglementaire s'adapte aux expérimentations. En clair, que la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, qui sert l'intérêt général, s'adapte aussi ou prenne la mesure de ce qui se passe sur le terrain. On ne négocie pas l'intérêt général. L'intérêt général, c'est 5 matinées successives. C'est mieux pour les enfants. Par contre, nous adapterons l'organisation du temps scolaire à ces expérimentations, à ces réalités locales qui l'exigeaient sans doute.
Des maires demandent encore du temps, que ça ne soit pas fait dès la rentrée. Ça va vite, la rentrée, c'est septembre. Vous-même, vous procédez à des aménagements. Nous sommes fin avril.
Ça fait 2 ans que beaucoup qu'on y travaille et qu'on en parle.
Tout le monde doit appliquer les rythmes scolaires à la rentrée.
Oui, sinon, il faut le comprendre, ce serait sans doute le désordre. Si on imaginait qu'on puisse à nouveau étaler, ce serait le désordre. Et moi, je ne souhaite pas qu'il y ait trop de désordre. J'ajoute que c'est une demande qui nous a été faite, de prendre en compte la spécificité des maternelles. Que le temps périscolaire, quand il vient et quand il est organisé en maternelle, entre un temps calme, un temps d'activité, il doit prendre véritablement en compte la spécificité des maternelles. Cela encore, plusieurs élus, parents d'élèves me l'ont signalé. Dans la circulaire qui accompagnera ce nouveau projet de décret que je soumettrai aux organisations syndicales, nous distinguerons mieux les spécificités des écoles maternelles. C'est pas pareil le périscolaire en maternelle dans les grandes sections, petites sections, moyennes sections que dans les écoles primaires.
Donc aménagement des temps scolaires et tout doit être fait pour la rentrée de septembre. Voilà ce que
oui, avec, ce matin, je le rappelle, 60 000 postes qui sont maintenus, supplémentaires en l'occurrence, et ces postes supplémentaires, ils seront indispensables. C'est en quelque sorte le carburant de la réforme, parce que ça nous permet de servir notre priorité à l'éducation prioritaire, justement, la scolarisation des enfants avant 3 ans, c'est bon pour lutter contre les inégalités sociales, ou un dispositif fondamental, plus de mètres que de classes. Il y a 9 classes, auparavant il y avait 9 mètres, ou 9 professeurs, il y en aura 10 pour travailler différemment.
Puisque vous faites le lien avec le débat économique, vous soutenez le plan d'économie présentée par Manuel Valls.
J'appartiens à un gouvernement, donc les décisions de ce gouvernement m'engagent. Cela étant dit, il y a eu des discussions entre nous, et nous avons débattu de ce qui devait être les bonnes et les mauvaises mesures. Ce que je veux dire, ce qui, moi, me préoccupe, c'est que, comme tout le monde, une mesure d'économie ou de réduction de la dépense, elle ne doit pas impacter ce qui est notre objectif, la croissance, donc l'emploi,
vous
et le pouvoir d'achat.
C'est quelques députés qui sont très importants. Ils menacent de ne pas voter ce plan.
Oui, mais justement, ce qui me permet de réagir à la parole d'Alba Ventura juste avant, c'est que contrairement à ce qu'on a dit, les députés ne sont pas convoqués par le Premier ministre. C'est tout à fait nouveau.
C'est pas un problème ça. Il y en a trois ce matin dans Libération qui disent je ne voterai pas le plan. Mais ils ont tort.
Mais ils aujourd'hui prennent leurs responsabilités. Ils sont inscrits dans un débat qui est un débat aujourd'hui sur le contenu de ce plan.
Vous leur dites voter le plan.
Mais je leur dis aujourd'hui. La main est étendue par le gouvernement pour améliorer ce plan, pour faire en sorte que sur les petites retraites, que sur un certain nombre de mesures qui sont favorables au pouvoir d'achat, on puisse corriger. C'est quand même tout à fait nouveau et sans équivalent qu'un gouvernement s'engage à ce point dans la discussion avec sa majorité. Nous verrons le résultat mardi, mais moi je souhaite que sur ces choix économiques, on puisse se parler, dégager des solutions ensemble, et si on dégage des solutions ensemble, se rassembler.
Votre collègue Montebourg est muet, il est d'accord avec vous, vous croyez ?
Mais Arnaud Montebourg, il est ministre de l'économie.
Oui, enfin,
en charge du redressement
politique. Il paraît qu'il a dit en Conseil des ministres qu'il n'était pas d'accord avec le plan.
Non,
mercredi.
Non, il n'a pas dit qu'il n'était pas d'accord avec le plan. Je vous le dis, ce qu'il a dit, si vous voulez le savoir. Oui. Il s'est inscrit dans un débat, qui est un débat à l'intérieur du gouvernement, organisé par le Premier ministre, sur les axes qui sont choisis, sur pas simplement ce plan-là. Sur la recherche de la croissance. La croissance, c'est l'emploi. Mais en même temps, il faut arrêter de parler croissance, compétitivité, ça ne veut plus rien dire pour tout le monde. D'accord. Le but, c'est qu'on inverse la courbe du chômage, toujours.
Benoît Hamon, ministre de l'Éducation, était l'invité d'RTL.
Merci beaucoup, Benoît Hamon. Bonne journée à vous.